Bonjour à chacun. La semaine dernière, avec Alexandra, mon épouse, on était en voiture et on écoutait un podcast. Alors un podcast, c'est une sorte d'émission radio, mais sur Internet. Et dans ce podcast, l'animateur avait invité Elon Musk. Je ne sais pas si certains le connaissent ici. Elon Musk, c'est le patron de Tesla. C'est ceux qui font les grosses voitures électriques. C'est aussi le patron de SpaceX qui envoie des fusées dans l'espace. C'est la seule fusée qui arrive à revenir et à se reposer comme ça. Et puis les deux discutaient ensemble et discutaient de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Je vous la fais courte et simple. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence informatique qui serait capable de faire ses propres choix, de réfléchir par elle-même et de prendre des décisions. Mais c'est ce genre, d'ailleurs, d'intelligence artificielle qui se trouve dans les voitures pilotées par Tesla, puisque ces voitures sont autonomes. Donc c'est des voitures où on peut manger une pizza pendant que la voiture nous conduit tout seul au match de foot. Mais il y a des questions qui se posent. Comment réagit la voiture si un piéton traverse? Comment réagit la voiture si quelqu'un nous fait une queue de poisson? Comment réagir si on nous coupe la route et la personne pile? Tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui va y réfléchir. L'intelligence artificielle, c'était aussi la grande question du film, je ne sais pas si certains l'ont vu, Terminator 2. Voilà, un classique. Très bon film. En fait, dans ce film, je vous raconte pas tout le film, mais en fait, il y a des robots, ils sont méchants, et c'est le grand enjeu du film. Et donc, ces deux personnes dans l'émission discutent, et puis il y en a une qui demande à l'autre, qui c'est qui devrait réguler l'intelligence artificielle? Qui c'est qui devrait réfléchir à ça? Qui c'est qui devrait faire les lois pour encadrer les robots qui seront capables, et qui sont déjà capables de réfléchir, d'apprendre, de décider et même de se reproduire? Qui c'est qui va décider comment on régule sur des robots qui bientôt vont se demander si les êtres humains ont le droit à la vie ou pas? Ces robots pourraient penser rapidement que les êtres humains sont une nuisance, que ce sont une menace et qu'il faut les éliminer. Nous, on regarde ça un peu avec la science-fiction, mais c'est des vraies questions. Et c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui. Et puis, cette personne essaie d'imaginer ce que penseraient les robots. Ils diraient, mais de toute façon, ils sont stupides. Ils font que polluer, ils font que détruire. Est-ce qu'on doit juste les maintenir en vie parce que les humains font de la bonne musique, qu'ils font des bons films? Il y a Elon Musk qui dit, oui, c'est une bonne raison. Et l'autre reprend, oui, pour nous, c'est une bonne raison. Mais pour n'importe qui d'autre, qui a un peu de recul, qui a une réflexion objective, c'est un système complètement corrompu. Et donc, il imaginait en fait que les robots n'auraient bientôt aucune raison de laisser les êtres humains en vie, parce qu'ils sont complètement corrompus. Et une des vraies questions qu'il y a au cœur du livre de l'Exode, qu'on parcourt ensemble, c'est comment un Dieu saint peut être en relation avec des humains corrompus? Comment un Dieu saint peut être en relation avec des humains corrompus? Est-ce qu'il devrait tous les détruire, comme bientôt les robots feront avec nous? Peut-être, j'espère pas. Et la question, c'est comment un Dieu saint peut être en relation avec des hommes pécheurs? C'est par une alliance et un sacrifice. Par une alliance et un sacrifice. Alors, peut-être c'est deux gros mots pour vous. Alors, on va les expliquer. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'était dans le cadre de la Bible, quand on parle d'une alliance, c'est une relation sacrée entre Dieu et son peuple. Et cette relation, elle dit que Dieu appartient à son peuple et que le peuple appartient à Dieu. Et cette relation d'alliance, elle est encadrée par des termes. Les termes de l'alliance, des conditions. Des conditions qui disent que si le peuple obéit à Dieu, Dieu le bénira. Mais si le peuple désobéit à Dieu, alors Dieu le punira. Et ce matin, on va lire la ratification, la signature de l'alliance. Et ces alliances, dans la Bible, elles sont un peu décrites comme les alliances de l'époque entre un suzerain et un vassal. Peut-être que ça rappelle à certains les cours de collège. Moi, ça me rappelle vaguement quelque chose. C'était quoi le suzerain ? C'était un seigneur à qui appartenait un territoire, un domaine, un pays. Et c'est lui qui fixait les termes, les conditions d'habitation à l'intérieur de ce pays. Et le vassal, souvent, c'est celui qui avait été conquis par le seigneur, qui appartenait maintenant au seigneur, et qui devait vivre selon les conditions du seigneur. Et donc c'est un peu avec ce type de relation, ce type d'alliance, que la Bible nous raconte l'alliance entre Dieu et les hommes. Et dans les chapitres précédents, on a vu les termes de l'alliance. D'abord, on a vu les 10 commandements au chapitre 20. Et ensuite, ensemble, on a vu une ribambelle de petites lois qui expliquaient au peuple comment il devait vivre dans le pays que Dieu allait lui donner. On l'avait fait ensemble la dernière fois. Vous vous rappelez, c'était la prédication qui était très longue. C'était ça. Et là, au chapitre 24, on a la ratification de l'alliance, la signature en quelque sorte du contrat. Et on est à la fin de la deuxième grande partie de l'Exode, si vous nous rejoignez. L'Exode, c'est un grand livre qu'on peut découper en trois grandes parties. La première, Dieu vient délivrer son peuple, c'est la sortie d'Égypte, les 10 plaies, le passage par la mer Rouge. La deuxième grande partie, c'est celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement et qu'on finit aujourd'hui, où Dieu fait une alliance avec son peuple et lui donne sa loi. Et la troisième partie, Dieu vient habiter au milieu de son peuple avec le tabernacle. Ça, on le verra dans les semaines à venir. Et donc là, on est à la conclusion de l'alliance, au début de la première partie, au chapitre 19. Dieu avait dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, vous serez mon peuple, vous serez une nation sainte, mise à part des autres peuples. Et vous serez des sacrificateurs, dans le sens où vous serez mes représentants auprès des nations alentour. Je vous propose qu'on lise donc le texte de ce matin qui se trouve dans Exode au chapitre 24. Exode 24, je vais lire les 11 premiers versets. Dieu avait dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines, et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. Deux parties dans le texte de ce matin, une plus grande que l'autre. D'abord, le livre et le sang de l'Alliance, on est en bas de la montagne. les versets 1 à 8. Et ensuite, le repas de l'Alliance, on est dans la montagne, les versets 9 à 11. Il y a beaucoup de choses techniques dans ce texte. Il y a beaucoup de choses difficiles. Peut-être certains qui nous rejoignent pour la première fois ou qui sont là rarement se disent « Mince, on n'a pas choisi le bon dimanche. On comprend rien. Il y a des mots difficiles, holocauste, alliance, ça parle de sacrifice, ça parle de sang sur le peuple. » Il y en a, ils ont peut-être une idée qui ressemble à un film d'horreur, des gens qui avancent avec du sang sur eux. Ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ben, on va essayer de mieux comprendre ensemble. On va essayer de mieux comprendre ce que le texte nous dit et on va aussi essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, qui sommes bien loin à la fois de ce qui se passe, même des pratiques qu'il y a dans le texte. Première partie, le livre et le sang de l'Alliance. En fait, ce texte, c'est une cérémonie. C'est un culte. C'est une cérémonie qui vient conclure l'Alliance. On l'avait lu au début du chapitre 19, Dieu appelle le peuple à obéir. Et ici, on a comme il donne les termes de l'Alliance. Et ici, au chapitre 24, on a comme la signature, la ratification de l'Alliance. Et le texte est construit en fait comme un culte. On a d'abord l'appel à adorer Dieu, comme on a eu ce matin. Quand on est arrivé, Guillaume nous a appelé à adorer Dieu. Appel à adorer Dieu. Lecture de la parole de Dieu. On le verra ensemble. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Engagement du peuple et réponse. Et c'est ce qu'on fera ensemble après. Et ensuite, partage du repas. Et cette structure de base, en fait, elle n'est pas là par hasard. Et c'est non plus pas par hasard, que nous avons cette structure plus ou moins définie, mais en tout cas qui reflète cet ordre dans nos cultes. D'abord, il y a un appel à l'adoration. Ça, c'est les versets 1 à 2 qui servent un peu d'introduction. Et on voit qu'il y a cet appel à adorer et cet appel à monter dans la montagne. Et on verra à la fin que le repas se passe dans la montagne et c'est en quelque sorte la réponse. Et on voit que c'est Dieu qui prend lui-même l'initiative d'appeler Moïse et les autres pour qu'ils montent vers lui. Encore une fois, et ce qu'on voit dans le livre de l'Exode, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est toujours lui qui invite le peuple. Alors, on a beaucoup de noms. Qui sont ces gens? Moïse, Aaron, son frère. C'est celui qui l'aidait à parler devant le Pharaon. Nadab et Abihu. Ça, c'est les enfants d'Aaron qui seront prêtres un peu plus tard. Et 70 des anciens d'Israël. Ça, c'était des responsables du peuple, sûrement les responsables qui avaient été nommés avec la visite de Jéthro. Si vous vous souvenez, au chapitre 18, le peuple est trop grand, Moïse s'épuise, Jéthro, son beau-père, lui dit « Mais t'as qu'à nommer des anciens, t'as qu'à nommer des responsables et déléguer. » Et c'est sûrement ces responsables dont on parle ici. On voit aussi qu'il y a des degrés. Le peuple doit rester en bas. On voit que les anciens doivent s'approcher avec Moïse, mais que plus tard, seul Moïse montera. Ça, c'est la suite du texte à partir du verset 12. On le lit pas, mais il y a quelque chose de particulier qui va se passer après ce texte, où seul Moïse montera. Et on a un rappel encore, quand Dieu appelle les responsables du peuple à venir l'adorer, ce rappel que si Dieu a délivré son peuple, c'est pour qu'il vienne l'adorer justement. Le peuple a été délivré pour adorer Dieu. Et d'ailleurs, c'était, on l'avait vu, une des promesses que Dieu avait faites à Moïse en disant « Tu verras que c'est moi qui t'appelle ». Parce que quand vous serez délivrés, vous me rendrez un culte sur cette montagne. Et donc là, on a l'accomplissement de la promesse de Dieu qui a délivré son peuple pour qu'il puisse l'adorer. Et on voit aussi que, en demandant à ses anciens de venir adorer Dieu, il leur dit « Vous vous prosternerez de loin ». Et on voit ici que s'approcher de Dieu, c'est l'adorer. S'approcher de Dieu, c'est l'adorer. On voit qu'ils doivent se prosterner et que c'est la seule réponse qui convient lorsqu'on s'approche de Dieu. Moïse, de bon matin, nous dit le texte, bâtit un autel et 12 stèles. Et on a cette image où l'autel, qui est le lieu du sacrifice, on en parlera tout à l'heure, est entouré des 12 stèles qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, l'ensemble du peuple. Et un peu plus tard dans le texte de l'Exode, on verra que Dieu donne des instructions précises pour que les 12 tribus d'Israël campent autour du tabernacle, que les tentes du peuple soient autour de la tente de Dieu. Et on voit ici dans cette cérémonie que Dieu est central et qu'on s'assemble autour de lui. Et c'est ce qui est symbolisé ici avec cet autel et ses stèles. Et après cet appel à l'adoration, il y a la lecture de la parole de Dieu. Et Moïse dit, lit deux choses. D'abord les paroles. C'est intéressant que Moïse emploie deux mots différents, les paroles et les ordonnances. Et en fait, c'est les deux mots qui ont été utilisés pour, au début du chapitre 20 pour parler des 10 commandements et au début du chapitre 21 pour parler de toutes les règles qui sont les applications. Et ici, Moïse, nous dit le texte, relit tout cela. Il le relit et il l'écrit. Et ça, c'est important. Que Moïse écrive ce que Dieu lui a dit. Quand Dieu demande à Moïse et quand Dieu demande au peuple d'entendre sa parole, il ne demande pas juste à ce qu'on récite des approximations, des souvenirs de ce qu'il aurait dit, mais il demande à ce qu'on lise ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'on pense qui compte, c'est ce qu'il a dit. Et encore aujourd'hui, la parole de Dieu tient une place importante dans notre culte. Et on ne veut pas prêcher, on ne veut pas lire, on ne veut pas se demander ce que Dieu aurait dit, on veut lire ce que Dieu a dit, on veut entendre la parole de Dieu dimanche après dimanche. Petit coup de pub en passant. Février, on a un super cours avec Frédéric Bican sur la Bible justement. Sur qu'est-ce que la Bible et pourquoi on doit lui faire confiance. Ferme la parenthèse. Et on voit ici dans cette cérémonie d'alliance que la parole, elle est au centre de la relation entre Dieu et son peuple. La parole, elle est au centre de l'alliance. C'est sur la base de la parole que l'alliance est conclue entre Dieu et son peuple. C'est la parole de Dieu qui nous dit qui il est. C'est la parole de Dieu qui nous dit ce qu'il veut. Encore une fois, c'est quelque chose, un motif que l'on retrouve dans l'Exode. On n'a pas à deviner qui est Dieu. On n'a pas à deviner ce qu'il veut. On a juste à le découvrir dans sa parole. Et encore une fois, cet épisode nous montre que lire la parole de Dieu, c'est rencontrer Dieu. J'avais sûrement cité déjà ce théologien qui disait « Tu veux entendre Dieu parler ? Lis la Bible à haute voix. » Lire la Bible, c'est entendre Dieu. On voit quelque chose de bizarre, c'est des jeunes Israélites qui vont offrir les sacrifices. Peut-être un indice pour l'âge senior. Ou pas. Attendez la fin de la prédication pour... Et on voit deux sacrifices différents avec des noms un peu bizarres. On a d'abord un holocauste. Alors, qu'est-ce que c'est un holocauste? À quoi ça sert? Comment c'est fait? Pourquoi? Si vous voulez en savoir plus, lisez dans Lévitique 1, mais je vais vous donner quelques indications. L'holocauste, c'était un sacrifice qui était offert à Dieu, un sacrifice où celui qui offrait, l'adorateur, posait la main sur la bête, sur le sacrifice, pour s'identifier à lui. Et ensuite, la bête était découpée et elle était brûlée entièrement. Entièrement, il n'y a rien qui reste. Et justement, le texte de Lévitique, alors Lévitique, c'est un autre livre dans la Bible, et c'est un livre qui explique tout ce qui est relatif au culte à cette époque-là, et notamment aux sacrifices et aux prêtres. Il nous explique comment ça marche. Et Lévitique nous dit que ce sacrifice-là, c'était le moyen d'expier. C'est-à-dire que Dieu permet par ce moyen à un humain pécheur de s'approcher de lui. Donc ce sacrifice, c'était le moyen par lequel un homme pécheur peut s'approcher de Dieu. Et le deuxième sacrifice, sacrifice de communion, peut-être dans votre Bible, vous avez sacrifice de paix. Dans ce sacrifice, les meilleures pièces, alors il y a plein de pièces, et notamment il y a la graisse, c'est là où on voit que la graisse, c'est le meilleur. C'était réservé à Dieu. Et ça restait sur l'autel. Ça restait sur l'autel et c'était consumé entièrement. Ça, c'était la part de Dieu. La meilleure part revient à Dieu. Et le reste, c'était mangé par les prêtres. Et ça, vous lisez ça dans Lévitique 3. Et ce sacrifice-là, il était offert pour dire la reconnaissance de l'adorateur à Dieu, pour lui dire merci. Et ce sacrifice-là, et c'est intéressant de le noter, il était suivi souvent d'un repas. Un repas dans lequel on célébrait la bonté de Dieu, on voulait lui dire merci, et on voulait reconnaître qu'il était aussi présent spirituellement. Encore quelque chose de bizarre, ça ne s'arrête pas. Moïse prend la moitié du sang qu'il met dans des bassines, et il met l'autre moitié sur l'autel. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, dans les contrats d'alliance, les cérémonies de conclusion d'alliance, on voulait montrer l'engagement des deux parties qui faisaient une alliance. Et un peu plus tôt dans la Bible, en Genèse 15, on a cet épisode avec Abraham, où Dieu conclut une alliance avec Abraham. Et Dieu demande à Abraham de couper des animaux en deux et de les séparer. Et ensuite, Dieu va passer au milieu des animaux. Et en fait, cette pratique, c'était pour dire, on conclut une alliance, et celui qui passe entre les animaux dit que je sois traité comme cela, si je romps l'alliance. Ce qui est intéressant dans Genèse 15, c'est qu'il n'y a que Dieu qui passe au milieu des animaux. Abraham ne passe pas. Il n'y a que Dieu qui s'engage en Genèse 15, quand il fait l'alliance avec Abraham. Mais ici, dans notre texte de ce matin, le sang est versé sur l'autel et sur le peuple. Et c'est une façon de dire au peuple, si vous désobéissez, votre sang retombera sur vous. Le sang sera répandu. Deuxième raison, le sang couvre le péché. On l'a dit que le sacrifice permet au peuple pécheur de s'approcher d'un Dieu saint. Permet la relation. Tout à l'heure, Guillaume nous a parlé de relation avec Dieu. Il nous a dit que nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Mais comment la relation est possible entre un Dieu saint qui ne supporte pas la vue du péché et un peuple pécheur qui ne peut pas s'empêcher de pécher? On a un dilemme. Et le sacrifice est ce qui permet de résoudre ce dilemme. Et troisième raison, le sang qui est aspergé sur le peuple consacre le peuple à Dieu. C'est-à-dire qu'il le met à part. Il dit maintenant, le but du peuple, c'est d'adorer Dieu, c'est de le glorifier. Il le consacre, mais aussi il le purifie, il l'en rend capable. Vous voyez qu'il y a beaucoup de notions qui sont très riches, un peu difficiles, dans un acte un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Et on voit quelque chose d'intéressant, c'est que Moïse ne répand le sang sur le peuple qu'après que le peuple se soit engagé. On le voit au verset 7. Moïse prend le livre de l'Alliance, il le lit au peuple, le peuple s'engage. Il dit, nous obéirons, nous ferons tout ce que tu as dit, tout ce que Dieu a dit, et ensuite seulement, Moïse répand le sang. Et par ce sang qui est répandu sur le peuple est lié et il est aussi rendu capable d'obéir. Il est lié et il est rendu capable d'obéir. Et on a une parole que je vous demande de garder dans un coin de votre tête, on la ressortira tout à l'heure. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple, verset 8, en disant, Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. C'est Dieu qui conclut une alliance avec le peuple. C'est lui qui a l'initiative et c'est lui qui donne les moyens au peuple d'être dans cette alliance. Deuxième partie, le repas de l'alliance, les versets 9 à 11. Moi, j'ai mis un point d'interrogation à un moment donné sur le côté et à la fin, un point d'exclamation. Le premier dit « Quoi ?» Le deuxième dit « Waouh !» Le point d'interrogation, c'est par rapport au fait qu'il voit Dieu. Et le point d'exclamation, c'est par rapport au fait qu'il mange devant Dieu. C'est bizarre. Enfin, moi, ça m'a paru un peu bizarre. On a cette cérémonie qui est extrêmement solennelle, avec des actes très forts, du sang qui est répandu, des animaux qui sont brûlés, qui sont égorgés, qui sont découpés, du sang qui est balancé sur le peuple. Et à la fin, ils boivent et ils mangent. D'abord, il voit Dieu. C'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et c'est peut-être la chose la plus terrifiante qui puisse arriver. On se rappelle que quelques chapitres en arrière, le peuple avait dit à Moïse justement, mais toi, va parler à Dieu. Que Dieu arrête de nous parler directement parce qu'on est terrifiés. On a trop peur. On ne veut plus que Dieu s'approche de nous comme ça. Et on se rappelle au chapitre 19 où Dieu se manifeste, on a un nuage qui descend sur la montagne, la montagne entière qui fume, qui tremble, et tout le peuple tremble avec elle. Parce que la gloire de Dieu apparaît, et que quand la gloire de Dieu apparaît, on a peur. Et un peu plus tard, dans le livre, Dieu dira à Moïse qu'il est impossible pour l'homme de voir Dieu et de vivre. Et pourtant, ici, verset 11, le texte nous précise bien, Dieu ne les fait pas mourir. Le texte nous dit qu'ils ont une vision de Dieu. Et on a un exemple de la grâce de Dieu qui permet à certains de ces hommes de les voir sans mourir. Et ce n'est pas non plus par hasard que ce soit les responsables qui ont ce privilège, eux qui vont descendre vers le peuple ensuite et vont conduire ce peuple. Et encore une fois, ils auront vu de leurs propres yeux le Dieu qui s'engage avec eux. En sortant d'Égypte, le peuple aurait pu dire « Ouais, c'est une belle coïncidence. On a été délivrés, mais au final, on ne sait pas trop qui nous a délivrés. » Il avait même remis en question la bonté de Dieu. Il avait été délivré de l'Égypte, tout le monde était content. Il passe quelques jours dans le désert, tout le monde commence à murmurer « Ah, on était mis en Égypte. » C'est vrai qu'on se faisait fouetter, mais c'était quand même pas mal, on avait un peu de poulet. C'est pas dans le texte poulet. En tout cas, le peuple se plaint. Et le peuple remet en question qui est Dieu juste après que Dieu l'ait délivré. Et ici, on voit que quand Dieu fait alliance avec son peuple, il se manifeste. Et il se manifeste encore plus clairement envers les responsables qui vont conduire le peuple. Et on va voir que, dans un épisode à la fois tragique et fondamental, que pendant que Moïse est en haut, le peuple en bas, il fait n'importe quoi. On le verra avec l'épisode du veau d'or. Mais c'est parce que Moïse et les responsables avaient vu Dieu qu'ils sont capables de dire « Non, 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 vous vous trompez. Ce n'est pas ce veau-là qui nous a délivrés. Il ne ressemble pas à ça, Dieu. Arrêtez tout. » Et en même temps, quand on regarde le texte nous dit qu'ils ont une vision de Dieu, mais le texte nous dit également ce qu'ils ont vu. Et le texte nous parle avec des analogies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux fois le mot « comme ». Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et en fait, quand ils sont redescendus et que le peuple peut-être leur a demandé, alors, Dieu, il est comment ? Et en fait, ce qu'il raconte, c'est Mais en fait, sous ses pieds, et il raconte le pavé. Il raconte ce qu'il y a sous ses pieds. On dit qu'il voit Dieu, mais il n'y a pas de description de Dieu. Et en fait, c'est la vision normale de quelqu'un qui se prosterne. Quelqu'un qui se prosterne, il voit le sol. Mais cette vision, elle est tellement glorieuse que même la description du sol, elle nous fait rêver. Même le sol sur lequel se tient Dieu nous fait rêver. Et donc on voit cette vision magnifique des anciens qui sont en présence de Dieu. Et ensuite, ils boivent et ils mangent devant Dieu. Et c'était coutumier de manger après la conclusion d'une alliance. C'est un peu comme on va au resto après qu'on ait signé un gros contrat ou un petit contrat. Ou des fois pas de contrat, on va au resto, mais ça n'a rien à voir. On voit ici que le repas, c'est un signe de réjouissance. Un signe de réjouissance pour l'alliance qui a été conclue entre les deux parties. Et aussi un signe de communion. Parce qu'on partage la présence des deux parties. Et pour nous, Français, on sait que le repas, c'est important. Et là, on a une base biblique pour le prouver. Mais on sait que les repas, ça rapproche. Et c'est pour ça qu'on veut multiplier les repas. On sait que pendant les repas, c'est des moments où on apprend à connaître l'autre. Des moments privilégiés. Des moments où on vit la communion fraternelle de manière particulière. Des moments où on peut s'ouvrir. Et des moments même où on partage juste la joie d'être ensemble. Et ce repas ici, c'est aussi l'occasion d'être dans la joie, dans la présence de Dieu. Et on voit qu'ils ont pu manger et boire en présence de Dieu, avec Dieu, après le sacrifice. Encore une fois, c'est le sacrifice qui permet la relation d'alliance avec Dieu. Après le sacrifice, les anciens, Moïse, Aaron et ses fils, ont pu entrer en présence de Dieu. Et les repas, les banquets, les festins, ça traverse toute la Bible. En particulier dans le contexte du culte. Je vous en donne quelques exemples avant de passer à la dernière partie. En Exode 13, il y a quelques chapitres, Dieu institue le repas de la Pâque. Dieu institue ce repas pour leur rappeler et pour qu'ils se rappellent génération après génération la manière dont Dieu les a délivrés. Et encore une fois, il y avait un sacrifice au milieu de ce repas. On avait un agneau qui se substituait au premier-né des Hébreux. Si les premiers-nés des Hébreux n'ont pas été tués, c'est parce qu'un agneau est mort à leur place. En Exode 24, ici, on voit ce repas qui célèbre l'alliance entre Dieu et son peuple. En Ésaïe 25, des centaines d'années plus tard, Ésaïe, le prophète, parle d'un festin que Dieu organisera pour tous ceux qu'il appellera, tous ceux qu'il délivrera, qui feront partie de toutes les nations et de toutes tribus. Et ce repas-là, Jésus, plus tard, en parle, en Matthieu 8. Il parle d'un festin où toutes les nations, des hommes de toutes les nations seront invités à la table avec Abraham, il nous dit, avec Moïse, en présence de Dieu. En Matthieu 26, et on va le lire tout à l'heure, Jésus parle de la nouvelle Pâque. Cette nouvelle Pâque où il est lui-même l'agneau donné en sacrifice pour le salut du peuple. Et on voit les ponts comme ça. Ancienne Pâque, nouvelle Pâque, repas de l'Alliance, repas de la nouvelle Alliance. Et en Apocalypse 19, on a ce dernier festin de la Bible qui vient célébrer les noces de l'agneau. L'agneau, c'est qui ? C'est Jésus. C'est comme un repas de mariage que nous décrit Jean, où Christ est réuni à son épouse à l'église. Et ça, c'est la réalisation de la prophétie d'Ésaïe. Et on voit que dans toute la Bible, tous les festins pointent, tous les banquets, tous les repas pointent vers ce repas final, où un jour, on sera avec Dieu. Un jour, on pourra se réjouir de sa présence. Et un jour, on le verra tel qu'il est, face à face, mais pas juste ses pieds, pas juste le sol. On le verra directement. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il y en a qui font comme ça. Ouais, justement. Ça fait 20 minutes que je me demande. Qu'est-ce qu'on fait de ce texte qui est bizarre, qui est technique, avec des mots qu'on ne comprend pas, avec des coutumes qui nous sont étrangères? Mais en fait, on fait comme d'habitude avec la Bible. Quand on lit au début de la Bible, on regarde comment ça continue. Et on n'oublie pas que cette histoire, elle est dans la grande histoire de la Bible, la grande histoire de Dieu, qui pointe vers une direction dont on va parler. Et souvent, cette histoire, elle nous aide à comprendre ce qui se passe plus tard. Et ce qui se passe plus tard nous aide à comprendre cette histoire. En fait, c'est une seule grande histoire, la Bible. Et si on arrive au milieu du film, on a du mal à comprendre à la fois la fin, mais aussi le début. Et nous, on connaît la suite de l'histoire. Le peuple ne tient pas l'engagement qui a été pris avec Dieu. Le peuple rompt l'alliance. Et en fait, la loi, nous dit la Bible un peu plus tard, elle était là pour plusieurs raisons. On en a parlé pour la dernière fois, mais une des raisons, c'était de montrer en fait que il y avait besoin d'autre chose. Montrer au peuple son incapacité à obéir. Et on pourrait se dire, mais purée, c'est encore dommage pour le peuple. Ça tombe à l'eau. Mais encore une fois, dans la suite de la Bible, on voit que Dieu prend lui-même l'initiative d'une nouvelle alliance. Et on ne va pas le faire ici, mais les chapitres 8, 9, 10 de l'Épître aux Hébreux sont peut-être les chapitres qui nous aident le mieux à comprendre ce qu'on est en train de lire ce matin. Quelques éléments. Cet auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle, donc c'est à la fin de la Bible, nous parle d'une alliance plus excellente. Et cet auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, cette alliance, c'est l'accomplissement d'une prophétie du prophète Jérémie, encore un autre prophète, qui des centaines et des centaines d'années avant que Jésus ne meure, ne vive, ne ressuscite, avait prophétisé cette alliance nouvelle. Et il dit en fait, il fallait une nouvelle alliance. Pourquoi ? Parce que le peuple n'avait pas tenu la première, celle dont on a parlé ce matin en Exode 24. Le peuple a rompu l'alliance, il fallait une nouvelle alliance. Il fallait une alliance, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, où la loi n'était pas écrite sur des tables de pierre, mais inscrite dans l'esprit et sur le cœur du peuple de Dieu. Et une alliance, encore une fois, qui n'est possible que par un sacrifice, par lequel Dieu pardonne les péchés. Le problème du peuple de l'époque, c'est toujours notre problème. Et la question du début du message, c'est toujours notre question aujourd'hui. Comment des hommes pécheurs peuvent s'approcher d'un Dieu saint? On est dans la même situation. Sauf que bonne nouvelle. Entre-temps, il y a une nouvelle alliance. Plus excellente. Meilleure. Parfaite. Et en Hébreux 9, l'auteur nous explique que les sacrifices, le tabernacle, ce qu'on va lire un peu plus tard dans l'Exode, tout ça, c'était qu'une ombre des choses à venir. Ça préfigurait ce qui devait arriver. En fait, cette nouvelle alliance dans l'Exode, elle anticipe. Cette ancienne alliance, elle anticipe une nouvelle alliance. Ces sacrifices, ils anticipent un sacrifice parfait, un sacrifice suffisant. Et je vous lis dans Hébreux 9, 26. Le texte nous dit que Jésus a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous explique, c'était impossible en fait. que les différents sacrifices successifs puissent ôter le péché. Ils étaient insuffisants et c'est pour ça qu'on les renouvelait jour après jour, après année. Et le texte nous dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous aide à comprendre. Il nous aide à comprendre la croix. Il nous aide à comprendre pourquoi Jésus est mort. Pourquoi il est ressuscité. Pourquoi il devait mourir. Il nous aide à comprendre la Pâque. Il nous aide aussi à comprendre Noël. Pourquoi Jésus devait venir. Jésus devait venir pour devenir le sacrifice parfait. Celui qui pardonne les péchés et celui qui permet aux hommes d'être en relation avec Dieu. Jésus a parfaitement obéi à notre place. Et il est mort innocent à la croix à notre place. Et c'est ça le message de la Pâque. Et c'est ça le message de la Bible. Et c'est ça le message qu'anticipait le texte de ce matin dans Exode 24. Qu'il fallait une alliance parfaite avec un sacrifice parfait pour permettre aux humains d'être en relation avec Dieu. J'anticipe peut-être un peu, Guillaume, mais je vous lis un texte dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Je vous lis les versets 26 à 28. Encore un repas. Un repas qui se passe à la Pâque. Jésus mange avec ses disciples. Alors, si vous n'êtes pas familier du texte, c'est ce qui se passe sur le tableau où on voit Jésus au milieu de la table avec tous ses disciples autour. C'est à ce moment-là. Je lis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et on entend les échos avec le texte qu'on a lu ce matin, où Moïse parle du sang de l'Alliance, répandu pour le péché du peuple. Ce sacrifice qui rend possible la relation entre Dieu et son peuple. Je conclue. Tout à l'heure, on va prendre la scène ensemble. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et ce repas, il nous rappelle que tous ceux qui se sont reconnus pécheurs, tous ceux qui ont reconnu leur besoin d'un sacrifice, que quelqu'un obéisse à notre place, que quelqu'un meure à notre place, pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, que tout cela sont au bénéfice de cette nouvelle alliance. Il nous rappelle aussi que nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu. Et c'est la plus belle des nouvelles. C'est la chose la plus extraordinaire qui puisse se produire. C'est être en relation avec le Dieu vivant, qu'un jour nous le verrons face à face. Et que cette relation, elle n'est possible que par le sang de Jésus, le sacrifice parfait. Je lis un dernier passage dans Hébreux 9, les versets 27 à 28. « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. » Et souvent, on connaît ce verset pour dire aux gens qu'ils vont mourir, après quoi vient le jugement. Et c'est vrai, c'est ce que dit le verset. Mais en fait, dans ce passage, l'accent il est mis sur Jésus. Jésus s'est offert une seule fois, pour toutes, pour porter les péchés. Et il reviendra pour le jugement et pour délivrer ceux qui se sont confiés en lui. Et c'est ça, prendre la scène. C'est se rappeler que Christ est mort pour nos péchés et c'est annoncer qu'il revient bientôt. Et prendre la scène, c'est aussi dire que Jésus est le sacrifice qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Jésus, c'est la clé de la relation avec Dieu. La scène nous rappelle que c'est Dieu qui a pris l'initiative et que ce repas de communion, c'est un repas de reconnaissance pour la grâce de Dieu qui s'est approchée de nous. Je vais prier. Merci Seigneur, parce que tu prends toi-même l'initiative de faire une alliance avec nous. Tu nous donnes ta parole dans laquelle tu te révèles, dans laquelle tu nous dis qui tu es, et dans laquelle tu nous expliques ce que tu veux. Merci Seigneur parce que tu as toi-même pourvu au sacrifice par lequel nous pouvons avoir une relation avec toi. Merci Seigneur parce qu'alors que nous ne méritions rien, par grâce, tu nous offres ton salut. Et ce matin encore, on veut prendre ce repas ensemble. On veut se souvenir du repas qui a été pris en Exode 24. On veut se souvenir du repas qui a été pris par Jésus avec ses apôtres et on veut attendre le repas qu'on pourra bientôt prendre avec toi au ciel lorsque nous nous verrons face à face, lorsque nous serons dans une communion parfaite avec toi. Amen.